Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi. On arrive doucement vers la fin du mois. Je suis un petit peu en train de monter en pression parce que j'ai une formation qui commence le 5, vous le savez. Et d'ailleurs, il reste quelques places, 2-3 places. On a mis une organisation en place pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et en même temps, je veux que toutes les places soient prises. Je veux pas qu'on démarre avec des places vides. Donc, je vous le résume ça vite fait. Il y a un ordre de priorité pour les personnes qui s'inscrivent à cette formation. Et ça peut vous intéresser. La première priorité, ceux qui arrivent en numéro 1 et qui auront toujours une place tant qu'il y aura des places, c'est les personnes qui ont un financement. Voilà, des personnes qui font la démarche, que ce soit le CPF ou que ce soit une demande Pôle emploi et compagnie, il y a une place pour elles, qu'elles aient le financement ou non. Je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard, mais du moment qu'elles sont dans une démarche pour s'inscrire, je ne veux pas les bloquer, je ne veux pas les ralentir, il y a une promesse qui est faite, je veux la tenir. Deuxièmement, si vous êtes déjà membre du cercle et que vous n'êtes pas en train de faire quoi que ce soit, ben, vous pouvez être prioritaire aussi sur les places qui restent. Et la troisième chose, c'est si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, eh ben vous pouvez nous rejoindre quand même. Et pour ces places où vous n'êtes pas financé et vous devez payer de votre poche, normalement la formation de 13 semaines, qui est une double formation, est à 2000 euros. Et pour les dernières places, parce que nous souhaitons vraiment que tout le monde puisse venir et uniquement pour les personnes qui sont en francophonie du Nord, je précise déjà, et qui ne sont pas financées, on fait moitié prix, elles sont à 1000 euros. Voilà, pour vraiment que tout le monde, enfin que toutes les places soient prises, qu'on puisse avoir les meilleures conditions possibles d'enseignement. N'hésitez pas à m'envoyer un message, trouvez-moi, cherchez-moi, montrez-moi votre motivation, envoyez-moi un petit message. Bon, je vous donne l'astuce à contact@lecercledesredacteurs.com pour rentrer sur la liste d'attente. Pour les dernières places, si vous le souhaitez, ou pour toute autre condition, n'hésitez pas. Voilà, j'ai fini ce petit tour-là. Dépêchez-vous, si jamais c'était le signal que vous attendiez dans votre vie, savoir qu'il restait des places, que ça serait moins cher, que c'était enfin accessible, dépêchez-vous. La liste d'attente n'est pas très remplie pour l'instant. On a lancé nos premiers appels hier, donc dépêchez-vous. On appelle les gens dans l'ordre, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet parce que j'ai reçu un gentil courrier d'un lecteur de notre newsletter, je viens de vous en parler, où on a lancé un appel en disant à 4000 personnes qui étaient inscrites sur nos listes, nos différentes listes, et on fait moitié prix sur les dernières places. Des deux formations, je précise, hein, c'est une double formation, c'est-à-dire vous faites rédacteur web et vous faites WordPress les deux en même temps. Voilà, et c'est le même prix, en fait, les deux ensemble. Bref, deux pour le prix d'une. Alors, j'ai reçu un gentil courrier d'un lecteur tout à fait adorable qui nous disait en gros la chose suivante. Avec l'arrivée de ChatGPT, de toute façon, tous les rédacteurs sont à la poubelle. C'est pas la peine d'insister. Vous êtes en train d'escroquer les gens, bande de raclos. Fin de citation. J'ai voulu savoir qui c'était, parce que je lui ai envoyé un mail en retour en lui disant « Veuillez me donner votre nom, s'il vous plaît, afin que nous vous retirions de toutes nos offres gratuites. » Parce que vous avez le droit d'avoir l'opinion que vous voulez, mais peut-être que nous, on n'est pas à l'aise avec l'idée de vous offrir des choses. Donc, non, il m'a pas répondu, c'est dommage. J'ai fait des recherches sur son adresse mail, j'ai essayé de le stalker, j'ai quasiment rien trouvé, sauf une chose, c'est un guitariste de jazz. Extraordinaire. Donc si c'est lui, je lui ai envoyé un petit message en disant hey, j'ai remonté ton adresse, je suis tombé sur j'ai plus le nom maintenant, Adrien quelque chose, et je suis en train d'écouter tes albums et j'adore. J'ai passé toute la journée d'hier à écouter ses albums. Si jamais c'est lui et qu'il écoute ce podcast, mec, t'es vraiment pas sympa, mais qu'est-ce que tu joues bien. Allez, je passe à la suite. Donc, la question qui est posée, c'est pas de vous refaire un nouveau ChatGPT, je vais vous raconter ma life, ou vous expliquer la formation rédacteur web augmenté qu'on présente, qui est incluse aussi dans la formation dont je parlais tout à l'heure. C'est pas ça. C'est d'essayer de répondre à cette fameuse question qui est est-ce qu'on est foutu? Est-ce que la rédaction web a un avenir? Et pour ça, il va falloir aller un petit peu au-delà de ChatGPT, il va falloir penser l'avenir. Donc, le métier de rédacteur web, en fait, il est en grande évolution, c'est certain. Je mets juste ça, voilà, comme ça. Il est en grande évolution et c'est un des métiers les plus bousculés que j'ai fait de ma vie. J'ai été psychologue, psychothérapeute, j'ai été journaliste, j'ai été organisateur événementiel, j'ai été commerçant, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Animateur, je sais plus, prof de colo, enfin, organisateur de voyage, conférencier, bref. Dans mes multiples petites aventures entrepreneuriales, le métier de rédacteur web que je fais maintenant depuis 2012, donc 11 ans maintenant, c'est vraiment le métier qui m'a le plus bousculé. On est en permanence dans l'impression de ne pas savoir ce qu'on fait. Notre métier est tout le temps en train de nous échapper. N'importe quel nouveau client qui vient va nous bousculer en nous demandant un truc qu'on ne sait pas faire. Et on doit lui dire oui et étudier le plus vite possible le sujet pour pouvoir lui amener des choses. Donc avec le temps, j'ai développé un savoir, j'ai développé un savoir-faire, j'ai développé une culture. Et toutes ces choses-là sont aujourd'hui ce qui est pour moi le cœur de notre métier. C'est-à-dire, je reviens sur Simon Sinek, que vous connaissez peut-être pour avoir développé le fameux why, le fameux pourquoi, en disant que tout commence toujours par un pourquoi. Bah, j'ai développé un peu ce raisonnement-là en disant pourquoi le rédacteur web. Et c'est à partir de là que je peux déterminer si le rédacteur web a un avenir ou pas. Je vous donne un exemple. Pourquoi le doubleur de cinéma ? Le doubleur de cinéma, qui fait donc les voix dans une autre langue que les langues d'origine, pour que le film puisse être vu par des personnes qui ne sont pas bilingues et qui n'ont pas envie de sous-titres, et donc bah, la plus forte audience, en gros, parce que les gens qui aiment les sous-titres sont vraiment rares par rapport aux gens qui préfèrent les versions originales, enfin les versions dans les langues. Le doubleur de cinéma est essentiel pour que des personnes, la majorité des gens d'un pays, puissent profiter d'un film comme s'il avait été tourné dans leur langue, ce qui leur offre une qualité d'immersion phénoménale. Au passage, les voix des doubleurs, différentes de celles des acteurs, permettent parfois de personnaliser, au-delà de simplement l'acteur et son caractère et son corps, sa physicalité, c'est-à-dire la voix de Harrison Ford, la voix de Keanu Reeves, bon Dieu, la voix de Keanu Reeves. Je ne sais pas si vous le savez, mais Keanu Reeves, c'est un musicien aussi qui a joué dans le groupe Dogstar et qui était bassiste-chanteur. Et putain, la voix de Keanu Reeves. Dogstar, c'est génial, hein. Écoutez, c'est chouette. Donc voilà, et c'est des trucs qu'on n'entendra pas en France, parce que les voix françaises ben, vont pas avoir cette tessiture, vont pas avoir cette profondeur. Peut-être, ou peut-être que si, mais en tout cas, il y a des voice designers qui choisissent les doubleurs en fonction aussi de ce que le film raconte, parce que c'est une occasion inespérée d'améliorer encore le film. Donc, quand vous êtes face à un film, en ce moment, je regarde sur YouTube une chaîne qui s'appelle E-Penser, E-Penser, et qui s'amuse à faire un épisode de 2 heures extraordinaire sur Matrix 4, expliquant que c'est probablement un des meilleurs films de toute la saga Matrix. Et c'est fascinant parce que je fais partie des gens qui ont dit après « Oh, il est pas mal !» Mais là, je découvre une dimension du film qui est phénoménale. Et donc voilà, je suis un petit peu dans cet univers Matrix. Là, ce matin, j'ai pas fini l'épisode, il reste environ 1 heure. Mais je vous le recommande déjà. On a l'occasion donc de corriger le film ou d'améliorer le film, de repenser le film. Parce qu'il y a une chose qu'on ne pouvait pas changer, c'était la voix des acteurs. Ben, c'est leur voix, ce sont des acteurs, donc on ne peut pas changer ça. Alors, on peut avoir pour le coup des performances extraordinaires, comme Matthew McConaughey dans un film sur le cancer, je ne sais plus ce que c'est maintenant. Si, Dallas Buyers Club, je crois, où il a carrément appris un accent texan alors qu'il ne l'avait pas. et qui le maîtrise à la perfection au point qu'on lui refile un Oscar pour ça. Parfait. On a aussi DiCaprio qui a travaillé des accents, etc. Parfait. Quel travail d'acteur. Mais ben, on avait aussi la possibilité de faire doubler les voix par quelqu'un d'autre. Ça ne se fait pas quand c'est la même langue, parce que quelque part, on trouverait ça sans doute du snobisme abusé ou alors une dénaturation trop forte de l'acteur. Mais l'acteur, je le rappelle, dans un film, ça s'appelle un personnage. Et à partir de là, on doit avoir une vraie maîtrise du personnage. Donc, on a la possibilité de changer la voix de l'acteur et de pouvoir adapter les choses, justement, pour permettre à ce personnage d'avoir une plus grande profondeur, une plus grande justesse. C'est comme ça que la voix de Brad Pitt française est absolument géniale. La voix des Simpsons est référentielle par rapport à la voix américaine. Il y a même des gens qui trouvent qu'on a des meilleures voix. Voilà. Etc. On a cet univers-là qui est fabuleux. Mais aujourd'hui, ChatGPT, enfin pas ChatGPT, l'intelligence artificielle, en général, arrive avec une nouvelle technologie qui permet de modifier, enfin d'échantillonner la voix de l'acteur original et de la faire parler avec un accent parfait dans n'importe quelle langue. N'importe quelle langue. Donc, enfin, c'est la promesse de la technologie, il y a encore des détails à régler, mais en gros, n'importe quelle langue. Donc, ça veut dire effondrement total des coûts pour une technologie pareille. Alors sans doute qu'il y aura beaucoup de réajustements sur le mouvement des lèvres, sur peut-être même que le mouvement des lèvres va être redessiné aussi. Enfin bref, le résultat en tout cas, c'est de dire que pour un coût bien moindre, on peut convertir un film dans n'importe quelle langue. Je dis ça pour, je ne sais pas, Israël par exemple, qui est ceux qui ont développé cette technologie, est un trop petit peuple qui va au cinéma pour rentabiliser le fait de traduire les films en hébreu. Ce qui a comme conséquence qu'ils regardent quasiment tous les films au cinéma en anglais sous-titré. La France est un marché assez grand, donc nous, on a l'habitude de ces traductions. Mais il y a beaucoup de pays pour qui ce n'est pas le cas. Donc, je reviens à ma question de base. Maintenant qu'on a trouvé une technologie qui permet même de passer tous les films en Comanche, si on le veut, Comanche ou Cheyenne, qui sont des langues disponibles dans votre téléphone portable si vous voulez changer votre téléphone dans ces langues-là. parce que pourquoi pas ? Voilà, hein, après tout, ça s'appelle, c'est ça la véritable tolérance. De ce côté-là, le Comanche, le Cheyenne, l'anglais, l'hébreu, le malgache, le malien, je ne sais pas, ce que vous voulez. En fait, toutes ces langues, Wolof ou autres, toutes ces langues qui n'avaient jamais eu les budgets jusque-là pour faire des vraies belles conversions vont pouvoir le faire. Donc on a résolu un énorme problème. Et pour le coup, la question, c'est que deviennent les métiers du doublage et les entreprises qui font du doublage. Est-ce que elles ont un avenir? La réponse est oui et non. C'est-à-dire, globalement, à 80%, non. Cette technologie va s'affiner, elle va résoudre un problème bien moins cher que ce que faisaient les autres. C'est à peu près l'équivalent de ceux qui allumaient les lampadaires dans les rues, qui étaient des lampadaires au gaz et qu'il fallait allumer avec une petite flamme. Je ne sais plus comment on appelait ça, mais en tout cas, ils se baladaient dans la rue avec des longues tiges qui leur permettaient de balancer une petite étincelle à 2 mètres. Et pour le coup, ils allumaient les lampes à gaz de toute la ville. Ils faisaient le tour de toute la ville et ils allumaient toutes les lampes à gaz. Ces métiers-là ont disparu dès qu'on a pu passer à l'électrique. Voilà, c'est un métier qui a disparu, on n'en avait plus besoin. Et il n'y a pas eu de reconversion possible. Donc, la seule chose qui pourrait satisfaire, qui pourrait permettre à ces boîtes de continuer, c'est si on avait toujours les voice designers qui disaient « Non, on a une meilleure qualité en demandant à un acteur de réinterpréter les choses » parce qu'en fait, il nous manque cette réinterprétation, cette réappropriation culturelle qui fait que les expressions ne sont pas les mêmes, les sens des discours ne sont pas les mêmes, les expressions faciales par rapport aux voix ne sont pas les mêmes, etc. Et c'est des choses qu'on ne va pas forcément pouvoir enseigner à un logiciel, même par imitation, parce qu'il s'agit d'une dimension d'interprétation. Exemple, le film Fight Club existe à mes yeux en trois versions, bien sûr en plus, mais je donne ces trois versions-là. La version américaine d'origine, la version canadienne et la version française. Ma version préférée de tous les temps, parce qu'elle est infiniment supérieure aux deux autres, hein, écoutez-moi bien, aux deux autres, c'est la version canadienne. Les réécritures des contenus, les accents des voix, la puissance du discours, les tonalités et les tessitures de certaines voix font que ce film est la meilleure version des trois. Je me régale à chaque fois dessus. Il me manque peut-être deux ou trois références qui sont un peu pointues, type Martha Stewart, je ne sais pas exactement qui c'est. En français, ils ont tout francisé et je trouve que ça n'a pas du tout la même gueule, ça n'a pas la même dimension, ça n'a pas le même poids, la même gravité. Donc je suis un petit peu frustré de ça. Mais en tout cas, cette réinterprétation culturelle par le Canada francophone, qui n'a pas d'accent, hein, je précise, ou très peu à certains endroits, peut-être un peu sur les mots anglais, mais sinon pour le reste, il n'y a pas cet accent canadien. Il y a un accent français volontaire. Je ne sais pas pourquoi les films canadiens ont un accent français volontaire. C'est un mystère pour moi. Mais bref, donc en tout cas, c'est la meilleure version des trois parce qu'il y a eu un travail de réécriture, un travail de géolocalisation, mais également un travail de recaractérisation de certains personnages en leur donnant plus de désespoir, plus de cynisme, plus de colère. C'est impressionnant. Je connais très bien les trois versions. C'est impressionnant, la réécriture. Et ça, c'est une dimension qu'on va perdre. Donc, il est tout à fait possible qu'un marché existe pour 20% encore, peut-être, des films qui concernent ça, qui concernent les gens qui veulent aller vers une réinterprétation culturelle du film avec autorisation des studios. Voilà, ça peut être très chouette. Et puis, c'est possible aussi que certains marchés n'aiment pas la voix originale parce que c'est la voix des acteurs qui est resamplée dans les autres langues et que, par exemple, bah, je sais pas, je pense au Disney, comment est-ce qu'il s'appelle, Encanto, que j'adore, mais vraiment j'adore, et il me bouleverse à chaque fois. Je m'attendais pas à me prendre une telle claque d'un Disney, mais la voix française qui est celle de la sœur de l'héroïne, celle qui fait pousser les fleurs, elle a un côté prétentieuse, pétasse, fragile, qui est incroyable et qui est totalement référencé à nous et qui n'aurait pas pu se trouver en dehors du fait que l'actrice même qui a fait le doublage avait cette caractérisation-là. Et sur la version originale, on n'a pas une seconde cette caractérisation-là. Mais moi, je trouve que ça, c'est extrêmement réussi. Même chose pour La Reine des Neiges, où je trouve que la voix de l'actrice principale, du personnage Elsa, je crois que c'est Elsa, celle qui fait La Reine des Neiges, tout simplement, elle est d'une puissance qui est bien supérieure à celle américaine. Donc on perdrait des choses de ce côté-là, et on pourrait imaginer que Disney continue sa politique d'utiliser des acteurs et des actrices qui sont du pays pour avoir quelque chose de plus naturel encore que ce que l'intelligence artificielle est capable de produire en termes de géolocalisation. Bref, vous voyez que 80% du marché va disparaître, 20% vont survivre. Parce que finalement, il y a quelque chose d'autre qui est apporté. Est-ce que les rédacteurs web... Qu'est-ce que j'ai fait comme détour ? Je suis désolé. J'espère que ça vous intéresse. Parce que pour moi, c'est un sujet passionnant, cette transformation des métiers. Personne ne va mourir dans l'histoire. Hein. On va changer de voie, on va trouver des nouveaux chemins, on ne va pas finir dans la misère, ça ne va pas être affreux. Toutes ces choses-là ne vont pas arriver. On va se réinventer, on va trouver des nouvelles voies. C'est pour ça que je suis un peu détente par rapport à ça, quand bien même un métier coulerait complètement. Donc, le métier de rédacteur web va subir un peu le même principe que le métier de doubleur, si on y réfléchit. On est en train, en tant que rédacteur web, de remplacer une fonction pénible que les patrons ne veulent pas faire. D'accord ? Donc on est entre ouvriers, artisans et manutentionnaires, la plupart du temps, et on est assez rarement, finalement, en tout cas jusqu'ici, reconnu pour des qualités éditoriales, des qualités marketing, des qualités de proposition ou d'autonomisation qui feraient qu'on aurait une valeur intrinsèque et qu'on aurait par exemple des stars. On n'a pas de stars dans le domaine de la rédaction web, à part quelques-uns en France comme, je ne sais pas, Isabelle Canivet, mais qui est une agence, Camille Gillet, mais qui est storytelleuse aujourd'hui, Séverine Mézières, mais qui part un peu sur un autre domaine, notamment en tant qu'auteur aujourd'hui. C'est des gens qui ont été des figures d'influence à des moments donnés. Bien sûr, je cite aussi Lucie Rondelet, mais aujourd'hui, elle est formatrice, donc c'est pareil. Mais rédacteur pour rédacteur qui serait connu, qui aurait une influence sur tous les autres rédacteurs, qui créerait une espèce de modèle de pensée, il n'y en a finalement pas. Et ça, c'est le signe que nous n'avons pas finalement de culture du métier et nous n'avons pas non plus d'identité qui nous est propre, c'est-à-dire de savoir-faire qui nous sont propres ou reconnus comme tels. En gros, on n'a pas de talent. Alors, je sais ce que vous allez dire, hein. Oui, mais il y a des gens qui écrivent mieux que d'autres. Oui, mais à part un rédacteur web, personne ne s'en rend compte. Et quand bien même, il y a des rédacteurs web, la plupart des rédacteurs web ne sont pas assez formés pour savoir ce qu'est un bon texte. Hier, pendant le mentorat de la formation ICICA, où il y a une soixantaine d'élèves aujourd'hui de Madagascar qui étudient avec moi la rédaction web, donc il y a des séances une fois par mois de mentorat de 2 heures, dans lesquelles je réponds à toutes leurs questions. Il y a une question, c'était une des premières qui m'était posée, qu'est-ce que c'est un texte de qualité ? Et ma réponse, je vous la donne, parce que c'est justement là-dessus que se pose l'essentiel de ma réflexion, un texte de qualité est un texte efficace sur son objectif. C'est extrêmement flou, hein. Mais en même temps, c'est parce que tous les textes n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Mais dans la famille des pas du tout, c'est vraiment le pas du tout de chez pas du tout. D'accord ? Il y a des textes, par exemple, qui doivent contenir des fautes, nécessairement. Il y a des textes qui doivent être techniques. Il y a une élève hier qui me disait « Comment est-ce que je peux faire pour avoir un discours juridique dans un contenu qui est destiné à des gens qui touchent au juridique ?» Je lui ai dit « Ne t'approche pas de ça. » Si tu n'as pas le diplôme, tu vas t'arracher les cheveux. Ou alors, utilise ChatGPT qui va te faire ça en moins de 10 secondes. Écris ton texte, puis dis à ChatGPT, hey, enrichis-le-moi pour un public qui travaille, qui a une spécialisation en juridique. Et il va refaire le contenu. Le problème, c'est qu'il faut vérifier ce qu'il a écrit. Et là, il nous faut de l'expertise. Donc, c'est vraiment pète-gueule. Mais en tout cas, ça, c'est un contrat particulier. C'est-à-dire, il faut donner une émanation juridique au contenu. Dans le même genre, il y a des textes qui sont faits pour faire saliver. Il y a des textes qui sont faits pour convaincre. Il y a des textes qui sont faits juste pour informer. Question d'une des élèves hier, comment est-ce qu'on écrit ? Mon client me demande un texte en style neutre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Neutre signifie expert pédagogique, c'est-à-dire transmission d'informations et aucun autre objectif. On est là pour avoir une information et on ne veut avoir aucune espèce d'autre relation avec le lecteur. C'est ok, c'est très bien. Ça marche pour les bases de données, ça marche pour Wikipédia, ça marche pour des glossaires, pour des lexiques, pour tout ce qui est de l'ordre de j'amène mon expertise dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'information, pardon, ben c'est parfait comme style. C'est le style de base des rédacteurs web, experts pédagogiques. Donc toutes ces choses-là, en fait, dépendent entièrement d'une chose, c'est le contexte de communication qui comprend les objectifs de communication. Qui parle, à qui, de quoi, comment, pourquoi. Si on fait un contenu qui est aligné sur ces 5 réponses, on a très très bien fait notre travail. Là, ce que je viens de vous décrire devrait vous faire un petit peu sursauter. Légèrement, pas trop, juste oh « Mais alors ça veut dire que je ne fais pas des bons textes ?» Alors même que j'écris des textes sans faute, que je respecte toutes les règles, que je fais du SEO, mes textes ne seraient pas bons selon David Goss. Mon Dieu, mais qui est-il pour se permettre ce genre de jugement ? Ma réponse est oui, les textes ne sont pas bons. Ma réponse est non, pour être précis. J'allais dire, je reprends souvent cette faute à quelqu'un. Non, ma réponse est non. Vos textes ne sont pas bons. Dans la définition du rédacteur web. Le mot web, il faut bien comprendre que ça signifie communication. D'accord ? Je vous laisse y réfléchir. Le web, c'est pas juste une surface type papier ou web. Il y a plein de gens qui opposent web et print. C'est pas ça. Le web, c'est un contexte de communication précis, donné, basé sur soit des gens qui vous découvrent par hasard, soit des gens qui vous ont cherché. Donc, on a des réflexions à poser pour optimiser l'expérience que la personne fait de sa lecture du contenu. Et au-delà de sa lecture, c'est toute son expérience sur le site qui est remise en question. Parce que vous pouvez écrire des textes merveilleusement bien alignés. Si le site ne suit pas parce qu'il est dégueulasse et parce que tout le monde s'en fout du site et que les gens se focalisent uniquement sur le taux de conversion sans se rendre compte que l'expérience globale est essentielle, sans se rendre compte qu'une personne qui vient chez vous et qui apprécie ce que vous lui avez donné, peut-être ne reviendra pas, peut-être vous recommandera, peut-être reviendra dans 3 mois, peut-être prendra le produit le plus cher possible chez vous, mais un jour où vous ne vous y attendrez pas. Peut-être même des gens dont vous avez l'impression que l'expérience a été mauvaise reviendront avec une vraie volonté de faire une meilleure expérience chez vous, parce que finalement, l'essentiel est passé, à savoir la confiance. Je suis désolé s'il y a du vent. D'un coup, il y a le vent qui s'est levé. Là, je suis en pleine forêt. Ça bruisse dans tous les sens. Je fais ce que je peux pour protéger le micro. J'espère que ça ira. Ah, et puis, il fait pas si chaud que ça. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est si un texte efficace, écoutez-moi bien, si un texte de qualité, on va dire, est un texte efficace qui repose sur une définition de positionnement marketing et de contexte de communication et d'objectif de conversion, à savoir qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi, 99% de nos clients sont incapables de faire générer un tel texte à ChatGPT. Hier, dans le mentorat, une élève m'a demandé mes clients sont en train de partir, elle en a perdu 5. Ils m'ont dit, oui, ChatGPT, c'est très bien, c'est génial, c'est super, j'ai plus besoin de vous, merci. Elle me dit, comment je fais pour arrêter l'hémorragie? Est-ce que je dois leur promettre? Est-ce que je dois chercher des clients qui veulent avant tout une relation humaine? Est-ce que je dois chercher des clients qui ont, un sentiment de rejet par rapport à ChatGPT? Comment je fais pour continuer à bosser? Et je lui ai donné une réponse, et je vous la donne aussi. À l'heure actuelle, en SEO, on ne sait pas du tout comment Google se comporte et se comportera par rapport à ChatGPT et à tous les textes générés par lui ou par d'autres. Google est capable de détecter un texte généré sans la moindre difficulté. Pourquoi ? Parce que les textes générés ont une musique. Je vous le dis pour simplifier à mort le truc. On appellera ça une signature algorithmique si jamais vous le souhaitez, mais ils ont une musique, une musicalité, un rythme, une fréquence. Là où les humains, quand ils écrivent, ils ont du chaos. Ok ? Musique ordonnée ou chaos ? L'un ou l'autre. D'accord ? Musique ordonnée ou chaos ? Google sait reconnaître les musiques ordonnées, quand bien même elles simulent le chaos, il sait reconnaître qu'un ordinateur a essayé de produire du chaos. Un ordinateur ne peut pas produire du chaos. Il peut singer en ayant un algorithme complexe qui engendre du chaos. Oh là là. Une seconde. Eh ben, bonjour toi. Oui, on s'est croisé tout à l'heure. Voilà. C'est une personne, au début de la balade, on a pris 2 chemins différents, on plaisantait ensemble. Et je lui dis, on se recroisera plus tard. Et comme on fait une grande boucle, elle et moi, dans 2 sens différents, on vient de se croiser. Voilà. Et donc, en fait, Google est capable de repérer le chaos. Il est capable de repérer également l'ordre. Mais l'ordre le plus fin du monde. Donc, tout ce qui est généré par une intelligence artificielle à l'heure actuelle est repérable par Google. Premier critère. Deuxième critère, Google s'est prononcé dessus en disant « Soit votre texte, c'est de la merde, et auquel cas, on estime que c'est du spam, soit votre texte est bon, et auquel cas, on le traitera comme un texte normal écrit par un humain. » Mais les textes écrits par les humains, eux, on les traitera toujours bien. Pas de problème. Ce sera jamais du spam. Bon, qu'est-ce qu'un rédacteur web augmenté entend à ce moment-là? Il entend qu'il y a un risque très net concernant notamment le quality content de Google, qui est une évaluation de la totalité d'un domaine et de la totalité de ses contenus, faisant que si le domaine contient trop de contenu pourri, il dévalue la totalité du domaine. C'est une menace énorme. On a des entrepreneurs qui ont commandé à des rédacteurs en Afrique, rédacteurs non diplômés, écrivant mal en français, ayant pas le temps de bien soigner leur boulot parce que écriture au kilomètre. On a des textes qui sont comme ça publiés et qui sont déjà médiocres. Les textes sont médiocres, pas les rédacteurs. Les textes, les conditions d'écriture de ces textes ont été désastreuses. Et maintenant, toujours par le même souci d'économie, ces mêmes clients génèrent du contenu à tour de bras pour pouvoir remplir leur site en ayant viré des gens qui leur coûtaient déjà trois fois rien et qu'ils avaient poussé dans la pauvreté. Donc, Google, voyant ça, va les sabrer. Il va les sabrer. Alors imaginez la part de marché qui existe maintenant quand il s'agira de sauver ces gens-là. En leur disant « Bonjour, vous avez dit que vous utilisiez ChatGPT, je comprends, mais est-ce que vous savez que, à l'heure actuelle, je vous montre des articles de recherche sur le domaine, Google a tendance à sabrer les mauvais textes. Un mauvais texte, vous êtes en train d'utiliser ChatGPT en mode production de texte, sachez que c'est un outil professionnel que seul un rédacteur web confirmé peut utiliser, parce qu'un rédacteur web confirmé peut identifier ce qu'est un bon texte ou un mauvais texte. Là où un client lambda et la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Donc, conséquence, si vous voulez, je peux générer des textes pour vous. Ils seront de bien meilleure qualité et surtout, je vais les retravailler à la main, voire les réécrire entièrement, pour que Google les considère comme humains. Vous, votre tarif y baisse, parce que je ne vais pas faire le même travail de documentation, de recherche que je faisais précédemment avec vous. Mais par contre, je vais m'assurer que ces textes soient toujours extrêmement bien perçus par Google. Je vais les réécrire et les rendre de nouveau Google-friendly et optimiser SEO. Donc, ça concerne tous les textes que vous avez générés, tous ceux que vous voudrez publier sur votre site, parce que je vais utiliser la même technique, c'est-à-dire je ne vais pas me casser la tête à faire un travail haut de gamme pour vous, je vais récupérer des sources, demander à ChatGPT de m'écrire un plan détaillé, voire de m'écrire directement un article que je vais reprendre entièrement et réécrire, paraphraser, reconstruire à partir de là, ce qui va me prendre peu de temps. Et je vais pouvoir comme ça produire des textes deux à trois fois plus rapidement qu'avant, mais qui répondent à tous les critères SEO. Et vous, je vous réécris les textes que vos rédacteurs dits offshore, parce que c'est pas forcément que Madagascar, c'est Mali, Bénin, Togo, Congo, Algérie, Maroc, Côte d'Ivoire, et j'en passe. Donc c'est tous ces endroits où le raisonnablement payer trois fois moins cher aurait permis à tout le monde de vivre dignement, mais non, on va les payer 20 fois moins cher. N'est-ce pas, messieurs, dames de France? C'est tous ces textes-là que je peux reprendre avec l'outil ChatGPT dans d'excellentes conditions, en garantissant que les contenus après seront parfaitement rentables et où je vais vous sauver le cul pour trois fois moins cher. Ce marché-là, il n'existait pas avant. Avec ChatGPT, il existe. Et surtout, c'est logique que Google veuille protéger au maximum la propension de textes générés par rapport aux textes écrits par des humains. Parce que Google référence tous les contenus. Il les référence, il les analyse, il les scanne. À partir du moment où il sait que c'est une intelligence artificielle qui a généré un contenu, il sait que ce contenu n'a rien de nouveau à offrir. Sauf si, et je vous expliquerai après, mais n'a rien de nouveau à offrir, donc il le dévalue tout de suite. C'est pas la peine, je veux dire, on l'a lu 100 fois, et en plus, ChatGPT est l'enfant du web. D'accord, il a mangé tout le web. GPT-4 a plus de 1000 milliards de variables basées sur la lecture de 90% du web mondial. Bon, c'est des chiffres supposés par rapport à des indices qu'on a, c'est pas forcément des certitudes, mais en tout cas, voilà, c'est la raison pour laquelle GPT-5 ne va pas arriver, parce que GPT-4 est déjà au max. Et on n'a plus grand-chose à lui offrir pour se nourrir. Donc, il va y avoir des tonnes de sites qui vont commencer à générer des contenus au kilomètre. Si Google commence à référencer ça en disant « Ouais, c'est bien, ça me va, ça me plaît », Google détruit le web. Il détruit le web. Et donc, son principal business model. Il n'aura des résultats que des textes générés pauvres en information. Il ne peut pas tolérer ça. Donc, c'est normal qu'il les sabre. Une fois qu'on a dit ça, on a un nouveau marché qui s'ouvre. Le marché de la récupération. Le marché de l'amélioration. Nos mains deviennent précieuses. Le fait que ce soit un humain qui ait réécrit le contenu est précieux. Si en plus il optimise SEO, c'est encore mieux. Et si les contenus sont pertinents, c'est top. Et ça, ChatGPT, il vous fait 80% du boulot. À la fin, tout ce que vous avez à faire, c'est écrire. Bienvenue chez les rédacteurs web augmentés. Deuxième marché qui s'ouvre et qui n'existait pas précédemment, les gens qui ont conscience que ChatGPT est compliqué à utiliser. Vous savez qu'on a un nouveau métier qui arrive, ça s'appelle les prompt engineers. Donc, c'est des gens qui développent des prompts pour obtenir de ChatGPT et d'autres Midjourney et compagnie des choses qui sont exploitables professionnellement. À partir du moment où on a ce marché qui s'ouvre, nous, en tant que rédacteur web, on a un boulevard qui s'ouvre. Exemple, j'ai discuté avec un client il y a une semaine. On a fait une réunion. Il m'a dit, j'aimerais beaucoup commencer à viser la position 0 sur Google et j'aimerais reprendre mes textes. J'ai besoin de 4 questions par texte qui vont avoir des balises spéciales pour pouvoir essayer de ranker là-dessus. Il m'a expliqué la procédure SEO. Je lui ai dit, je vais confier ça à un rédacteur web, ça va être top. Puis j'ai réfléchi en me disant, mais le rédacteur web, il va me tuer. Enfin, quand bien même, il gagne un peu d'argent grâce à ça. Qu'est-ce que c'est pénible ? Lire tout un article, trouver 4 questions à poser, écrire les 4 réponses, reprendre, synthétiser ce qui est dit dans l'article. Oh là là ! Et faire ça sur des centaines de textes. Oh là là ! Donc, j'ai envoyé un mail au client en disant, après réflexion, j'ai réussi à créer un prompt qui casse le côté très algorithmique de ChatGPT, c'est-à-dire qui va créer de la diversité, de l'angle, du propos, des choses comme ça, et qui fait très bien le travail des 4 questions. Je lui ai envoyé un échantillon, je lui ai dit « est-ce que ça, ça te va ?» Il m'a dit « ben écoute, si le reste du texte est écrit par des humains, ça, ça passe, c'est bon, et ça va fonctionner. » Donc en fait, il m'a acheté ça. Donc bien sûr, ça, il ne va pas du tout payer le prix qu'il aurait dû payer, c'est-à-dire que normalement, il aurait dû me payer... voyons voir... Alors attends, c'est 800 euros à peu près pour tout ça sur l'ensemble de la commande qu'il avait prévue. Bon bah il va payer que 100 ou 150 parce que je vais lui faire payer 2 heures parce que c'est ce que ça va me prendre de faire passer dans GPT-4 l'intégralité des contenus avec le script, avec le prompt et obtenir à chaque fois le résultat, le coller dans le document et let's go. Voilà, donc pour lui, c'est une économie d'échelle phénoménale. Pour moi, c'est une économie de temps phénoménale. Le projet n'était pas intéressant, il est traité. J'ai des nouveaux outils, j'ai des nouvelles possibilités. Je peux prendre des commandes de 1000 fiches produits à faire. Je peux prendre des tonnes de choses parce que ça, c'est des trucs que Google va pas péter un plomb parce que sur les fiches produits, il y a une génération de contenu. C'est OK pour lui. Il a jamais ranké. Vous avez jamais tapé sur Google un truc où la première réponse, c'était une fiche produit. Donc, de toute façon, il dévalue les fiches produits. Si le reste du site est très bien, on peut faire ça. Donc, vous imaginez quand même cet énorme marché qui arrive de toutes les commandes qu'on n'a pas passées en tant que prompt engineer. Nous sommes capables aujourd'hui de faire plus de choses que jamais. Les clients peuvent payer 2 fois, 3 fois moins cher un rédacteur web augmenté qui fait un boulot qui n'est pas gratifiant, pas intéressant, mais qui sera pour le coup extrêmement bien fait avec GPT-4 parce que GPT-4, il est enthousiaste tout le temps. Il est super content tout le temps. On lui donne n'importe quel boulot, il est heureux. Les rédacteurs web, à partir du moment où ils en sont à 250 fiches produits de vis dans la catégorie vis et clous, je peux vous dire qu'ils commencent à tirer la langue hein, et qu'ils se disent qu'ils font ça juste pour bouffer. Alors s'ils peuvent se débarrasser de ça, mais par contre travailler à la main sur un cocon sémantique de l'autre côté, qui lui est passionnant, intéressant, permet de creuser les sujets, le client, lui, il a eu un super prix, il a eu plus que ce qu'il fallait, il est en train d'équiper tout son site. À côté de ça, il a un architecte de contenu, salut c'est nous, qui va faire le job d'orchestrer tous les contenus nécessaires de son site et les déployer progressivement en partenariat éventuellement avec un SEO. C'est des grosses économies, mais surtout, le rédacteur web est sauvé à partir du moment où il est en capacité de prendre en charge l'écriture d'un site internet. Autrement dit, si vous êtes rédacteur web et que vous ne savez pas comment on écrit une page à propos, comment on écrit un article de blog branding, comment on écrit un tunnel de conversion, comment est-ce qu'on écrit une home page, comment on écrit des pages services, comment on fait un cocon sémantique, je suis désolé pour vous, vous êtes remplaçable. À partir du moment où c'est vous qui prenez les décisions, vous n'êtes plus remplaçable. On vous confie à vous le soin de faire le travail de quelqu'un d'autre. Et ça, ChatGPT, on peut s'accrocher tant qu'on veut. Vous pouvez lui dire, écris-moi l'arborescence d'un site internet hyper optimisé SEO. Il vous fait un truc. Si vous n'êtes pas vous-même spécialisé SEO, vous ne savez pas si c'est bon ou pas. Vous n'allez pas mettre 10 000 balles dans la production d'un site généré, dont le plan est généré par ChatGPT. Vous n'allez pas faire ça. Parce que vous ne savez pas si ces 10 000 balles vont être perdues ou non. Par contre, si vous êtes face à un ingénieur des contenus, ou un architecte de contenu, ou un rédacteur web augmenté compétent, et de communication, et de marketing, bien sûr, bah là, vous avez la possibilité de croire en lui, et donc d'investir sur lui. L'intelligence artificielle n'est pas un problème. Quand on me demande aussi une question qui m'a été posée en mentorat hier, comment je fais pour parler à mes clients du fait, et je vous rappelle que c'est les élèves de Madagascar, hein, juste pour, au cas où vous êtes en France et que vous vous dites que la vie est tranquille, là j'ai des champions, hein, et ils arrivent. Donc la question de cet élève, c'était comment j'explique à mon client que j'utilise ChatGPT, que je suis rédactrice web augmentée, et que donc c'est un avantage pour lui. Comment je formule ça? Et je lui ai répondu la chose suivante. Et vous allez voir que c'est dans la continuité. Hein. C'est vous expliquer à votre client que vous êtes rédactrice web augmentée, ce qui veut dire que vous utilisez l'intelligence artificielle pour toute la partie marketing, pour toute la partie SEO, pour toutes les optimisations du contenu, mais le texte à la fin, c'est vous qui l'écrivez. C'est-à-dire, il a le meilleur de l'intelligence artificielle, de la dimension analytique, de la stratégie. Et en plus, il a un contenu qui est hyper SEO friendly. Et tout ça pour le même prix ou pour un petit peu plus cher parce que c'est hautement plus qualifié. On est sur quelque chose qui est hautement plus compétent qu'un rédacteur web tout seul. Je suis désolé, je vais le reformuler encore une fois. Quand vous avez un client, d'accord, vous avez un client par exemple qui vend, qu'est-ce que je peux vous trouver ? Une nouvelle tronçonneuse, je suis en pleine forêt, hein, donc moi, mon imagination, ça ne va pas aller très loin. Une nouvelle tronçonneuse pour tailler du bois en forêt. Un truc vraiment mieux. En tout cas, qui a des innovations vraiment plus intéressantes. Bon, vous prenez ça, le client dit « j'ai besoin de contenu ». Et vous, avant même la première rencontre avec ce client, vous allez sur son site, vous copiez tous les passages où le client parle de lui, où il parle de ses clients, où il parle de ses services, etc. Vous donnez tout ça à ChatGPT et vous lui dites quelque chose du genre « Propose-moi une analyse de positionnement marketing de ce client qui propose ces informations-là. » Vous obtenez une analyse très fine, parce que ChatGPT peut être très fin, surtout le 4. Je vous le redis parce qu'à un moment donné, si vous voulez passer augmenté, il faut payer l'abonnement. Et vous vous régalerez, hein. Ça sera vraiment du haut de gamme. Mais d'ici là, si vous restez sur le 3, ben, vous allez toujours risquer qu'il y ait des erreurs. Le 4, il y en a... j'en trouve quasiment jamais, quoi. Donc voilà, et vous allez avoir un positionnement marketing. Puis de ce positionnement marketing, vous allez déduire la cible. Et de la cible, vous allez déduire les personas. Et des personas, vous allez déduire les pain points. Donc les points de souffrance des personas, les choses que les personas veulent régler, et où le client est pertinent par rapport à son produit. Et après quoi, vous allez sortir les arguments les plus forts du client. Et là, on en est à même pas 15 minutes hein, de travail pour l'instant. Et après, vous allez déterminer des sujets basés sur les personas, basés sur les points de souffrance, basés sur le produit du client, et vous allez lui proposer ça. Et la réponse que vous envoyez à cette personne qui vous demandait juste un devis, c'est « j'ai regardé votre site, voilà ce que j'ai compris de votre site, voilà ce que j'ai compris de votre type, voilà les articles que je peux vous proposer, et voilà comment on pourrait faire des call to action qui pourraient fonctionner davantage. Mon tarif, c'est tant et tant par article. » Et c'est même pas très cher. Et le gars, il se dit « waouh !» Et vous dites, ah oui, c'est parce que je suis augmenté, j'ai utilisé un outil d'analyse professionnel haut de gamme qui s'appelle ChatGPT, qui a fait une analyse du positionnement marketing intégral de votre site suite à mes commandes, de manière à ce que j'obtienne tous les éléments dont j'ai besoin pour prendre les meilleures décisions pour vous. Voilà. Et s'il vous dit, ouais, mais c'est ChatGPT qui fait le boulot, vous dites, vous voyez un paquebot ? Vous savez ce que c'est qu'un paquebot ? Bien, vous savez, vous avez déjà vu le poste de commandement ? Moi, j'en ai visité un. C'est à peu près 200 ordinateurs dans des tableaux partout, au mur, sur des consoles, partout, et une dizaine de personnes pour contrôler tout le bordel. OK ? Les paquebots, c'est des villes qui se déplacent. La question, c'est pas ah, « Est-ce que le capitaine, il sait faire avancer le bateau s'il n'y avait pas tous les ordinateurs ?» Alors que c'est des intelligences artificielles qui sont quand même dans les bateaux. Hein. La question, c'est « Est-ce que le capitaine sait faire avancer un bateau aussi prestigieux, aussi puissant, aussi lourd, aussi massif, sans la moindre erreur, est-ce qu'il est capable de faire ça ? » Alors après, des gens diront « Oui, mais c'est l'intelligence artificielle qui dirige le bateau et pas le capitaine. » Je vous rappelle que le Costa Concordia, il a coulé sur le large de je ne sais plus quelle île, je crois que c'est la Sardaigne, ou la Sicile, ou la Corse, je ne sais plus dans ce coin-là. Et il a coulé parce que le capitaine a voulu faire coucou à sa copine et a amené le bateau trop près des terres. Donc, je suis désolé, le capitaine a encore le pouvoir de commandement. Donc ça, c'est les choses qui arrivent pour nous. Je conclue là-dessus parce que je pense que je vous ai donné assez de matière pour réfléchir à votre avenir. Vous pouvez être n'importe où dans le monde, ChatGPT est là pour vous. La seule chose qui vous manque réellement, c'est des connaissances. Et je vous rappelle que ma formation commence bientôt et qu'elle est à moitié prix pour la francophonie du Nord. Pour la francophonie du Sud, c'est-à-dire tous les pays d'Afrique que j'ai cités, vous avez le tarif pour ces 13 semaines de formation à 350 euros, payable en plusieurs fois. Et qui contient encore un an d'intégration au cercle des rédacteurs, plus l'accès à tous les contenus, etc., plus les événements du cercle des rédacteurs et compagnie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il reste plus beaucoup de place, donc maniez-vous, vraiment, hein, je le dirai jamais assez, et c'est ouvert aux débutants. Voilà, j'ai oublié de vous dire ça au début, c'est dommage, je vais devoir tout recommencer. Non, je plaisante. Mais voilà, en tout cas, c'est ça ce que je voulais vous dire, c'est le plus important. Le rédacteur web est mort. Le rédacteur web est mort. Le rédacteur web augmenté, rédacteur web communicant, rédacteur web marketing, rédacteur web SEO marketing, SEO tout court, c'est un peu léger parce que ça va être vite remplacé. Ils sont déjà en train de travailler sur des systèmes qui enrichissent automatiquement tous les contenus du vocabulaire SEO et qui placent les mots-clés comme il faut. Donc ça va être remplacé, mais c'est un outil pour le rédacteur web communicant qui arrive directement dans sa besace. Écoutez-moi bien, je finis là-dessus. Le rédacteur web à l'avenir, qu'il soit communicant, augmenté ou toute autre chose, aura des clients, majoritairement, qui n'auront aucune compétence dans le web, ou très peu, ou qui débuteront seulement. C'est ça le nouveau marché. Et il est 100 fois plus grand que celui qu'on a aujourd'hui avec les agences, avec les référenceurs, les clients qui s'y connaissent et qui nous passent des commandes avec des briefings tout faits et ce genre de choses, ou les content managers ou ce genre de trucs. Là, on est sur un marché 100 fois plus grand. On est sur tous ceux qui arrivent, tous ceux qui n'ont pas l'expertise de faire le travail, tous ceux qui ne savent pas utiliser ChatGPT. On est sur eux. Mais si vous savez faire des prompts, si vous savez comment fonctionne un site internet, si vous êtes spécialisé dans la construction d'un site, son organisation, etc. Je vous rappelle que la formation que je propose est une formation WordPress intégrée qui s'appelle WordPress pour rédacteur web communicant. Donc on va travailler sur ces sujets-là, vraiment très spécifiquement, et sur le rôle de chaque page, et sur la structure, et sur le tunnel de conversion, et le tunnel de vente, etc. etc. On va bosser là-dessus, parce que ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, on ait des capitaines qui sache que sous-traiter à un rédacteur web, ou qu'il soit dans le monde qui est compétent, sous-traiter à ChatGPT ou écrire lui-même, c'est la seule chose qui n'est pas importante dans l'histoire. Ce qui est importante, c'est la stratégie. Et là, vous accédez à un marché gigantesque. gigantesque que ChatGPT ne pourra jamais voler. Excepté le jour où quelqu'un va créer un truc où vous mettrez juste le nom du site, les produits que vous faites, vous appuyez sur un bouton et il va produire intégralement tout un site qui sera basé sur des analyses de marché, basé sur des niveaux de vente, basé sur l'identification des personas, l'identification de leurs pain points, etc. Alors, bref, ça sera un truc monstrueux, ça coûtera 600 balles à utiliser. On n'y est pas encore, ça sera jamais au point avant la prochaine décennie, très probablement. Et de toute façon, quand on sera arrivé là, le web ne sera plus le web, ça sera juste une interface avec laquelle on parle. On n'aura absolument plus besoin de naviguer sur les sites. Donc, détente. Google Bard arrive, Claude arrive, Bloom arrive, Hugging GPT arrive, GPT-4 est en train de s'optimiser de plus en plus. Bard, c'est mon préféré, je vous le dis, parce qu'il est extraordinaire, il connaît tout le web d'aujourd'hui, vivant, il est capable de faire des recherches et de faire des analyses, et il est incroyable. Allez jeter un coup d'œil sur mon mur LinkedIn, j'ai publié un test que j'ai fait de mon site, ce qu'il en a produit, c'est dingo. Et c'est un truc actuel, interprétatif, hyper bien structuré. Donc Bard, je vous rappelle que Palm 2 vient de sortir chez Google et que Bard est une version allégée de Palm. Donc là, il y a Palm 2 qui arrive. Palm 2, c'est 100 fois supérieur à Palm 1. Donc, on va arriver sur des outils de malade. Arrêtez d'en avoir peur. Arrêtez d'en avoir peur. Devenez-en maître. Parce que si un jour, écoutez-moi bien, si un jour, vous ne pouvez plus travailler pour les autres, alors vous pourrez toujours travailler pour vous-même, parce que vous maîtriserez les meilleurs outils du monde. Réfléchissez à ça. Personne ne meurt. Tout le monde se transforme. À bientôt, les amis.